Manifeste du lundi pour une éthique du contrepoint rigoureux. Il apparaît qu'en 2019, contre l'uniformisation du monde et de la pensée, le recours à l'art du contrepoint, forme d'écriture musicale qui superpose des lignes mélodiques distinctes, semble de plus en plus nécessaire, voire vital. Le contrepoint, qui trouve ses origines dans la polyphonie, n'est pas l'harmonie. C'en est même, sinon l'opposé, du moins un genre de contrepoint. Le contrepoint peut superposer des thèmes qui n'ont rien à voir, jusqu'au vertige, jusqu'au génie. Il suffit de se plonger dans l'œuvre de Bach ou de Handel. Mais le contrepoint surtout a ceci de sublime qu'il ne connaît pas de vérité. S'il y a des règles et des codes, force est de constater qu'il varie d'un traité à l'autre, comme si la forme musicale, à l'image d'une conversation, refusait de se laisser guider ou brider. L'art du contrepoint, vous l'avez compris, renvoie à la musique, mais va sensiblement plus loin. Ainsi que l'écrit Yankelevitch, le contrepoint a une âme, en ceci qu'il repose sur une volonté musicienne qui fait chanter ensemble, ou converser plusieurs voix, ou parties mélodiques également expressives, et pourtant l'une sur l'autre brodées dans le colloque vivant de la polyphonie. Le contrepoint, c'est la possibilité du contraste, plus que du désaccord. C'est le garant de l'équilibre, à l'heure où chacun voudrait prendre le pas sur l'autre, sans vouloir entendre, sans vouloir écouter, sans vouloir comprendre que le monde repose sur ses infimes variations et que les nier revient à le mettre en danger.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est passé maître dans l'art du contrepoint. On lui doit certaines des plus belles musiques de films qui ont été composées. Son travail sur 37 de Le Matin, Camille Claudel ou encore L'Amant, César de la meilleure musique, mais aussi Le Patient Anglais récompensé par un Oscar ou La Vie des Autres en ont fait l'un des musiciens les plus marquants de ces 40 dernières années. En novembre prochain, après Francis Lai, Michel Legrand ou Vladimir Kosma, il sera mis à l'honneur par le Festival du cinéma et musique de films de la Baule. Bonjour Gabriel Yared.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, musicalement, qu'est-ce qui définit l'art du contrepoint, pour qu'on comprenne bien?
Il y a deux sciences importantes dans la musique, c'est l'harmonie et le contrepoint. L'harmonie, il faut imaginer quelque chose de vertical. Un accord, par exemple, procède selon les lois de l'harmonie. Le contrepoint, ce sont plusieurs lignes mélodiques qui sont superposées, donc c'est horizontal, et la superposition de ces lignes crée aussi une harmonie, mais une harmonie qui est beaucoup plus libre que l'harmonie qu'on apprend en général dans les règles du conservatoire.
Alors quelles sont les difficultés inhérentes à cet art du contrepoint ?
La difficulté, c'est que chaque ligne existe par elle-même et que tout ensemble forme un autre, un vrai tout. Et que le fait que chaque ligne existe par elle-même, ça veut dire qu'on peut presque la chanter. Je donne un exemple très simple. Si on prend par exemple les fugues de Jean-Sébastien Bach, on peut chanter chaque ligne et chaque ligne a un sens. Oui. Mais en dehors de ça, c'est le contrepoint qui a permis, si vous voulez, à tous les compositeurs de faire évoluer la musique. Si on prend le contrepoint de Bach, il est différent de celui de Beethoven, différent de celui de Henri Dutilleux ou du Ligeti. Avec ces mêmes règles, ces compositeurs ont pu faire évoluer la musique grâce au contrepoint, beaucoup plus que l'harmonie.
Alors justement, c'est le musicien Henri Dutilleux dont vous étiez l'élève à l'École normale de musique qui vous a conseillé de suivre des cours de contrepoint. Comment est-ce que vous êtes devenu son élève et comment vous l'avez appris, cet art-là?
Écoutez, d'abord, j'étais envoyé par le ministère de la Culture, j'avais une bourse du Liban à l'École normale de musique. Et moi, je connaissais pas encore Henri Dutilleux à l'époque, parce que bon, je venais découvrir la musique tout seul, et je suis autodidacte au départ. Et j'ai assisté à ces cours de Dutilleux avec des premiers prix de conservatoire, de Vienne, de Paris, de Rome. C'était vraiment des pointures. Et moi, j'étais le seul touriste. Je passais par là, mais je n'avais fait aucune étude musicale. Simplement, je savais très bien lire et écrire la musique. Et il m'a suivi pendant toute l'année. À la fin de l'année, il m'a dit, vous savez, il faut que vous retravaillez un peu le contrepoint. Je lui dis, cher maître, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Il m'a dit, promettez-moi, quoi que vous fassiez plus tard, de faire du contrepoint. C'est la chose la plus importante en musique. Et moi, j'ai suivi mon chemin. J'ai été au Brésil, où je suis resté 2 ans. Je suis venu à Paris, je suis devenu orchestrateur. Et au bout de 5-6 années d'orchestration, j'ai pris 2 années sabbatiques et j'ai été voir un vieux professeur à la retraite. Et je lui dis, apprenez-moi le contrepoint.
Mais à vous entendre, Gabriel Yared, on a l'impression qu'au départ, vous êtes totalement autodidacte. Comment vous avez appris la musique ?
Je suis né dans un milieu qui n'a pas beaucoup favorisé mon éveil musical, parce que mes parents et toutes les générations avant, il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de musicien, et donc un peu comme un mouton noir. Et j'ai été mis pensionnaire chez les jésuites à un âge terrible qui est 4 ans, de l'âge de 4 ans à 14 ans. Au Liban, Voilà, chez les jésuites. Et pendant toutes ces années-là, moi, la seule chose qui m'intéressait, je sentais que j'étais vraiment né pour la musique. Et j'étais obligé d'apprendre avec un professeur une fois par semaine pendant une demi-heure.
Une leçon de piano.
Une leçon de piano, oui. Et j'ai tout de suite senti que ce qui vraiment me permettrait d'évoluer musicalement, c'était d'absorber cet alphabet, do, ré, mi, fa, sol, la, si, c'est rien, il n'y en a que 7 alors qu'on nous apprend 24 quand on est tout petit, et d'absorber de telle manière que je peux ouvrir une partition, la lire immédiatement, que ce soit du piano ou un quatuor à cordes ou une partition d'orchestre. C'est ça qui m'a fait avancer.
Comment se déroulaient ces leçons de piano dans le pensionnat jésuite?
Oh, elles étaient rigides. Il était très sévère avec moi. Je me souviens, c'est Bertrand Robillard, un Français, qui était donc professeur au Liban. Et il tenait aussi l'orgue des pères jésuites. Et quand il est mort, j'avais 14 ans, j'ai pu avoir la clé de l'orgue. Et c'est comme ça que j'ai appris à jouer de l'orgue et à déchiffrer donc toutes ces partitions-là. Mais c'est lui qui avait dit à mon père, à l'âge de 14 ans, avant sa mort, il lui avait dit, on ne fera jamais rien de ce garçon.
Mais il savait, vos parents, que vous vous passionniez pour la musique?
Il le savait, mais il prenait ça pour un hobby. Vous savez, c'est pas un métier, compositeur, c'est être bohémien.
Il n'y avait pas du tout de musique dans votre famille, on n'en écoutait pas?
Non, ils n'en écoutaient pas vraiment. Et puis mon père me sifflotait des Java quand j'étais petit parce que je jouais de l'accordéon. Il me sifflait des Java parce qu'il venait souvent à Paris. Et les seules musiques qu'on écoutait, c'était des musiques qui me plaisaient pas, de la variété italienne ou, je sais pas, je me souviens de Lenny Escudero, des choses comme ça.
Mais ça bloque quand même, je suppose. Vous avez fait votre droit, Gabriel Yaral?
Deux ans.
Ouais. Pendant deux ans seulement, avant de vous autoriser à vous tourner vers la composition?
Je me tournais déjà vers la composition parce que la faculté de droit était juste en face de l'université Saint-Joseph où il y avait l'orgue.
Ah.
Donc j'ai fait mes études de droit à la tribune de l'orgue des jésuites.
En fait, c'est un orgue qui vous a sauvé, sans
doute.
Oui. Et comment il sonnait, cet instrument, vous vous souvenez?
Écoutez, il sonnait magnifiquement bien, surtout quand on est sur une tribune, assis dans une tribune comme ça, on a l'impression vraiment que on est dans un environnement céleste. On regarde le monde d'en haut, et puis ces tuyaux qui vous soufflent comme ça dans les oreilles, c'est divin. Mais je me souviens d'une expérience vraiment presque mystique. C'est la première fois que je suis monté vers cette tribune. J'avais l'impression d'une ascension vers le ciel. Et quand j'ai entendu le moteur commencer à ronfler et les tuyaux en place, enfin qui commençaient à résonner, j'ai posé mes mains sur l'orgue et je me suis dit, je suis Dieu.
La musique est indissociable pour vous d'une dimension spirituelle?
Oui, je crois. C'est-à-dire, je me pose pas la question de cette manière-là. Je sais que j'ai reçu à ma naissance un don exceptionnel. Et à ma manière, je rends grâce à ce don que j'ai reçu et j'ai l'impression que c'est très spirituel finalement. Parce que ma spiritualité se vit dans ma musique.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que sans cet orgue, vous ne seriez peut-être pas devenu le compositeur que vous êtes aujourd'hui, et certains morceaux que vous avez composés n'auraient pas vu le jour. Gabriel Yared, si l'on s'en tient à la musique de film, c'est d'abord un 37 de le matin. Aussi Adjani au sommet de son art dans Camille Claudel. C'est la beauté des corps et des traversées du Mékong dans L'Amant, adapté de Marguerite Duras, musique qui vous a valu un César, Gabriel. C'est aussi un Oscar et un Golden Globe pour Le Patient anglais. Allez, un dernier pour la route, La vie des autres, Oscar du meilleur film en langue étrangère et un thème inoubliable. À l'écoute de ces musiques, Gabriel Yared, quelles images se bousculent dans vos têtes? Parce que moi, c'est ce qui m'a frappé en les écoutant. J'ai comme revu des films.
Vous revoyez des films, et moi, du fait de mon approche qui est très étrange, je n'aime pas voir des images pour faire travailler mon imagination. Je voudrais qu'elles arrivent au tout dernier moment. Donc je commence par quelque chose qui n'est pas encore incarné en images, c'est-à-dire le scénario que je lis. Puis je parle beaucoup avec le ou la réalisatrice, le réalisateur ou la réalisatrice, le maître d'œuvre, et je lui demande ce qu'il attend de la musique. On discute beaucoup du scénario, du futur tournage.
Et ça passe par des mots beaucoup plus que par des musiques.
Par des perceptions finalement. Ce sont des perceptions que je retire du scénario, de ces discussions-là, et je me mets au travail très tôt dans le processus, c'est-à-dire avant même que les images ne soient tournées, et je cherche des idées musicales, des pistes, même si elles ne sont pas gardées à la fin. J'ai besoin de faire ce travail de recherche pour pouvoir habiter après, une fois que je reçois les images, habiter ce film et essayer de ciseler chacune de mes musiques sur les images. Alors, le public, évidemment, se souvient, lui,
oui,
quand il écoute les musiques, se souvient des images. Moi, je me souviens de mon approche, par exemple, pour 37.2 le matin, je me souviens de Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle venant chez moi avant le tournage, et je leur demandais, mais est-ce que vous savez jouer du piano, puisqu'ils ont cette scène des deux pianos ensemble.
Oui.
Jean-Hugues Anglade jouait à ce moment-là une pièce de Debussy, il m'a montré son pianisme, disons sa manière de jouer, et Béatrice Dalle m'a dit, moi je ne joue que Dalle, je joue avec un doigt. Donc ce que j'ai composé finalement relève de ce qu'ils m'ont raconté, et de ce que m'a raconté Benex, qui était très très musicien lui aussi. Et cette approche finalement, moi me convient, je ne dis pas, je ne suis pas prosélyte, je ne dis pas que tout le monde doit adopter la même, mais elle me convient parce qu'elle me permet de faire un grand itinéraire sur le film.
Qu'est-ce qui pour vous, Gabriel Yared, en fin de compte, fait une bonne musique de film?
Ben je crois celle qui arrive à concilier les contraintes, c'est-à-dire d'être d'une part consciemment en subordonné aux images, aux dialogues, au sujet du film, et en même temps préserver les prérogatives de la musique elle-même, c'est-à-dire l'autonomie de la musique, que la musique existe par elle-même et qu'elle serve le film. Je sais que de tous les compositeurs que j'ai entendus pour le cinéma, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, mais il y en a un que je mets par-dessus tous, c'est Bernard Herrmann. Parce que il a apporté à tous les films de Hitchcock une conscience dans son travail, une innovation. Ça, voilà quelqu'un qui prenait par exemple 8 trombones, 8 flûtes, alors que normalement dans un orchestre, tout le monde sait qu'il y en a que 3 et 3 de chaque. Et donc il recherchait vraiment la couleur. Et je trouve que c'est ça aussi qu'on doit faire, c'est inventer tout le temps des couleurs pour servir un film.
Jean-Yves, vous nous parliez d'une couleur précise, celle que vous avez trouvée pour Le Patient Anglais, tiens, le thème principal du Patient Anglais.
Mais, vous avez vu, je commence par cet instrument qu'on appelle le cor anglais. Quand j'ai composé la musique, donc quand Anthony Miguel est venu me voir, j'habitais à l'époque l'île aux Moines, on a parlé de musique, il m'a dit, je te donne quelques indices, Jean-Sébastien Bach, Puccini, je lui dis pourquoi Puccini, il m'a dit pour l'élégance de ses mélodies et de ses harmonies, et enfin l'Orient. Et il m'a dit, il faudrait qu'il y ait un thème qui rassemble tout ça. Et quand j'ai commencé à composer, j'ai trouvé ce petit intervalle, ti-da, et après ti-da-di-di, do-da. Et tout de suite dans ma tête, j'ai entendu le timbre qui pouvait représenter ce thème, c'était le cor anglais. Ce cor anglais qui a un son d'une nostalgie incroyable, qui est presque orientale d'une certaine manière. Et j'ai commencé à bâtir, et comme on bâtit une musique, en écrivant d'abord un thème, une présentation de thème, puis après vient le refrain, comme dans une chanson.
Oui.
Il est tellement important d'avoir une mélodie pour un film. La mélodie, on dit que c'est le visage. La musique étant le corps, la mélodie est le visage. Donc c'est très important de trouver une mélodie. Et cette mélodie, je me souviens très bien comment je l'ai trouvée, presque sur la table, en écrivant beaucoup plus qu'au piano. Et après ça, il y a encore dans ce film-là d'autres mélodies qui sont un hommage à Bach, etc. Mais ce qui m'a le plus marqué dans Le Patient Anglais, c'est de voir ce que cette musique donne sur les images, alors que moi je l'avais conçu en fonction de ce que Anthony Minghella m'avait raconté de son film.
Oui, mais si les mélodies sont des visages, c'est donc qu'il y a une intervention des images à un moment donné.
Toujours. Moi, quand je pense à un film, quand je pense à un scénario, quand je pense à ce que m'a raconté le réalisateur, je vois des images, et elles ne sont pas en contradiction avec celles qui vont venir après.
Alors ce qu'il faut rappeler quand même, Gabriel Yared, c'est que vous n'avez pas fait que composer de la musique de film, vous avez aussi composé des musiques de ballet, pour Caroline Carlson notamment.
Roland Petit, oui.
Oui, et puis aussi des musiques de générique, celle du JT de TF1, c'est pas rien, mais aussi des musiques en tant qu'arrangeur, compositeur, orchestrateur pour des artistes comme Johnny, Aznavour, François Hardy, Gilbert Bécaud, j'en passe. Pourquoi le cinéma, en fin de compte?
Bah écoutez, c'est un hasard dans ma vie, je dois cette arrivée dans la musique de film à celui que j'appelle mon bienfaiteur, qui s'appelle Jacques Dutronc.
Ouais.
Comme je produisais Françoise Hardy, j'avais fait 5 albums avec elle, je voulais composer des chansons avec Michel Jonas pour elle aussi, j'écoute de la musique soul, etc.
Ouais.
Je sais que Jacques Dutronc aimait bien ce que je faisais, et comme il avait été approché par Godard pour un film qui s'appelle Sauf qui peut la vie, c'est lui qui a donné mon nom à Godard. C'est comme ça que j'ai débarqué dans la musique de film. Sinon, je n'étais pas vraiment destiné à faire de la musique de film, parce que, d'une part, ayant passé toute ma vie, toute mon enfance et mon adolescence dans la musique, à travailler, je n'avais pas de culture cinématographique. Donc j'ai débarqué dans quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai beaucoup appris avec Godard, comme j'ai appris avec Benex, comme j'ai appris avec Hanno, avec Minghella, et je suis devenu petit à petit compositeur pour le cinéma. Parce qu'au départ, je ne savais pas comment ça se passait.
Mais quel art est-ce que c'est le cinéma pour vous ?
Mais je pense que c'est un art majeur. Il a cet avantage de rassembler tous les arts. Il y a de la chorégraphie dans le cinéma, il y a de la peinture, il y a même de la sculpture, il y a de l'architecture dans le cinéma, et puis il y a la vie, le théâtre. Donc c'est un art, pour moi, qui est très très important. La seule chose qui soit difficile, c'est d'introduire la musique dans cet art qui est déjà complet.
Il faut dire que vous êtes devenu un immense cinéphile. Il y a 2 ans, vous étiez membre du jury présidé par Pedro Almodovar au Festival de Cannes. Vous vous souvenez quand même quand vous avez découvert et comment vous avez découvert l'existence du cinéma ?
Oui, c'est quand j'étais tout petit, j'ai vu un film qui m'a terrorisé, parce qu'on pouvait aller au cinéma tout seul à Beyrouth. Je crois que je devais avoir 12 ou 13 ans et j'ai vu un film terrible qui s'appelle Marnie, d'Alfred Hitchcock.
Ah ouais ?
Oui, et j'avais été fasciné par la musique et vraiment terrorisé par le sujet lui-même.
Tout commence au Liban, donc Gabriel Yared. Le Liban dont vous êtes parti, ce sentiment d'exil et de deuil, à votre avis, dans quelle mesure sont-ils présents dans votre musique, encore aujourd'hui ?
Oh, je pense qu'ils sont présents depuis le début. Vous savez, ces racines-là, on ne peut pas comme ça les oublier, on peut pas se déraciner, mais on peut les occulter pendant un temps, et puis après, elles vous surgissent à la gueule, elles reviennent encore plus fortes et plus authentiques,
oui.
Parce qu'on a fait un chemin vers elles. Mais je me souviens d'avoir beaucoup utilisé la musique orientale, il y a très longtemps, dans les années 80, avec les films de Costa Gavras, par exemple, Hanaka, ou bien avec Adieu Bonaparte de Youssef Chahine, avec Michel Oslo pour Azur et Asmar. Petit à petit, ça m'est revenu. Mais pas comme une coquetterie, pas comme je vais faire un peu d'oriental. Petit à petit, j'ai commencé à étudier la musique orientale et je me suis dit, mais elle est d'une richesse exceptionnelle.
Qu'est-ce qui en faisait précisément la spécificité musicale? Si on prend par exemple les œuvres de chanteuses comme Oum Kalthoum ou comme Asmahan, qui est une figure centrale dans votre dernier projet.
D'abord, il y a une profonde nostalgie, quelque chose de très prenant, de très... Moi, ça m'engloutit tellement...
C'est-à-dire que cette mélancolie rencontre la vôtre?
Oui, et puis c'est très sensuel aussi. C'est une musique qui... Tout à l'heure, je parlais d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie dans la musique orientale. C'est ce qu'on appelle monophonique. Tout le monde joue exactement la même mélodie. Les mots sont élastiques, donc vous pouvez rester sur une syllabe pendant 10 minutes. Oum Kulthoum donne des concerts de 7 heures, parfois sur 3 chansons en 7 heures. Donc elle étire complètement chaque syllabe et elle fait toutes ces mélopées et toutes ces ornementations qui sont absolument magnifiques, qui sont uniques, je pense. Ici, il y a de ça chez les Indiens aussi, dans la musique indienne. Et donc, il y a ce retour à cette chose-là, mais quand je reviens vers cette musique-là, je reviens enrichi de tout ce que j'ai appris depuis que j'ai quitté le Liban. Et c'est ça qui fait que ce retour est important, parce que c'est un pont que j'essaie de faire, de diriger entre ce que j'ai appris et ce avec quoi je suis né.
On va reparler d'expérience, d'identité, de pont, d'exil, de douceur aussi, juste après un titre que vous avez composé et qui est chanté, interprété par Yasmina Youmblatt. Ça s'appelle Dab Albi, ça veut dire « Mon cœur se liquéfie ». En arabe, vous êtes sur France Inter avec Gabriel Yared. Vous écoutez Boomerang. Thank you.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Ah bah il a ce charisme, vous savez, cette allure, surtout que je dirais chic et un peu perché. Le cheveu rebelle, indiscipliné, l'œil perçant, curieux, précis derrière. Ces petites lunettes qu'il n'a pas, qu'il a posées sur la table, qui ouvrent hein, avec son sourire lumineux, généreux, les portes, les horizons, les esprits. Un sourire qui donne envie de rêver. Ce matin avec sa chemise blanche, ouverte, le musicien et compositeur Gabriel Yared, invité de Boomerang. Ce matin, on vient d'écouter Yasmina Joumblatt, accompagnée d'un orchestre symphonique sur une musique que vous avez composé, Gabriel, pour un morceau comme celui-ci, concrètement, vous commencez par quoi ?
Là, j'ai commencé par les paroles. J'ai demandé d'écrire les paroles. Souvent, je commence par la musique, et puis la personne qui écrit vient après. Mais là, j'ai commencé par les paroles, parce que je trouvais les paroles tellement inspirantes. Ce qu'elle dit, en gros, c'est mon cœur se liquéfie au feu de ton amour. Parce que, voilà. Et tous mes sens sont en éveil et je pleure ton absence. Enfin, on retrouve toujours les mêmes poncifs dans la musique, dans les paroles en
arabe. Oui, c'est ça. À partir justement de ces mots, puisque c'est ça, à partir des paroles, qu'est-ce que vous faites, vous?
Ben, déjà, je les chante en moi. Ah. Quand je lis des paroles, je les chante. Je dis, Dab albi minna. Ah ouais. Donc déjà, ça donne une petite rythmique.
Une musicalité.
Oui, une musicalité. Et après, je cherche sur le piano, puis je dis non, pas ça, non, pas ça. Puis finalement, j'écris pour pouvoir... Parce que l'œil a plus d'oreilles que l'oreille elle-même. L'oreille ne peut juger que ce qu'elle entend. Alors que l'œil, lui, peut, en regardant une partition, on peut se dire, ah tiens, mais là ça va pas où ça devrait aller. Même sur le plan du dessin, on peut sentir qu'une mélodie est ou n'est pas.
Et vous avez en tête le visage, puisqu'on parlait de mélodie tout à l'heure, et la voix.
Et la voix, toujours, oui. C'est sa voix qui m'a inspiré, oui. Et petit à petit, donc, on bâtit, on fait une sorte d'architecture. On dit, tiens, voilà le mouvement A. Maintenant, il faut un B qui monte et qui exulte. Parce que aussi sa voix doit exulter. Et je fais donc cette partie B, je reviens au A, et je l'atteste, je l'écoute, puis j'oublie. Je reviens le lendemain. Encore une fois, il faut perfectionner, il faut enlever ceci, enlever cela. C'est vraiment un travail d'artisanat.
Et quand est-ce que vous savez ?
Quand je n'ai plus rien à critiquer. quand j'ai plus rien à redire, en fait. Quand je suis ému, voilà. Quand je suis moi-même ému. J'arrive à me détacher de ce que j'ai fait. Je n'ai jamais eu la conscience d'être l'auteur des choses. Jamais. Même quand j'écoute une musique. Il y a une musique que je peux écouter de tout ce que j'ai fait, c'est Camille Claudel, parce qu'elle me dépasse. Et je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Et ce n'est jamais le jeu qui intervient, c'est je suis un témoin de ce qui m'a habité et de ce que j'ai fécondé, parce qu'on reçoit parfois une petite inspiration et puis on y travaille, on la féconde, on arrose cette semence. Et c'est tout un travail, les gens ne s'imaginent pas, mais c'est un travail très artisanal. Moi, je me considère comme un artisan.
Qu'est-ce qui fait pour vous, Gabriel Yared, la beauté d'une voix? À quoi ça tient?
Parfois, une voix ne peut ne pas être belle en tant que telle et elle vous touche. Je ne sais pas. Moi, je pourrais dire que c'est une alchimie inexplicable. Ça touche quelque chose en nous qu'on appelle l'âme, c'est le dedans de soi. Ça, je n'arrive pas à l'expliquer. Parfois, ça touche plus bas que le dedans de soi. Ça touche le ventre. Il faut que ça touche l'individu dans son corps.
Avec quelle voix est-ce que vous avez grandi, vous ?
Moi, j'ai grandi avec. Il y avait Aznavour, il y avait Becco, il y avait Françoise Hardy quand j'étais tout gamin.
Ouais.
Oui, tous les garçons et les filles, et mon ami La Rose. C'est comme ça que j'ai découvert finalement la variété française, grâce à elle.
La variété dans laquelle vous vous êtes plongé, qu'est-ce que ce passage par la variété vous a appris? Parce que j'ai l'impression que ça a fini par vous ennuyer.
C'est-à-dire, le problème c'est que, comme je disais, autodidacte vraiment jusqu'à un certain âge, je voulais toujours conserver une certaine intégrité par rapport à la musique. Et je ne voulais pas traîner dans des zones qui ne m'enrichissaient pas. Les orchestrations m'ont enrichi, non pas financièrement, mais sur le plan de mon expérience. Oui, parce que financièrement, tout ce que j'ai gagné, j'ai acheté des partitions d'orchestre de Bartók, Stravinsky, Dutilleux, Mozart, etc. pour apprendre. Et je dois rendre grâce aux chanteurs qui se sont laissés orchestrer par moi, parce qu'au départ, je ne savais pas orchestrer. Je ne sais pas comment, j'ai fait encore une fois ça, je dis toujours au toupet, c'est vrai. Quel toupet d'orchestrer alors que je n'avais jamais appris ça. Et grâce à eux, finalement, j'ai appris, je faisais des expériences sur leur dos, en disant, tiens, je vais peut-être mélanger ces timbres-là. Orchestrer, finalement, c'est quoi? C'est souvent, comme les compositeurs de chansons n'écrivent pas la musique, ils vous présentent une maquette avec leur chanson, ou bien ils jouent de la guitare, ou bien ils jouent au piano les accords. Il faut entourer tout ça, il faut créer une rythmique au-dessus de ça. Donc, ce que fait la batterie, ce que fait la basse. Il faut trouver des contre-champs. On revient au contrepoint. Donc quand la voix s'arrête, il y a un contre-champ qui lui répond, ou bien il y a un contre-champ qui l'accompagne. Il faut trouver la ligne de basse. Il faut trouver les accords de guitare, tout un ensemble de choses qui font que cet édifice se tient et qu'une chanson qui n'était qu'une maquette devient une chanson que vous entendez un jour à la radio. Tout ce travail-là est un travail qui prend beaucoup de temps et beaucoup de soins. Mais je l'ai fait avec amour parce que d'abord j'avais l'impression, pas l'impression, je savais que je servais un artiste et sa chanson, et en même temps, comme je suis assez égoïste, je me servais moi-même.
Oui, vous formiez, en fait.
Oui, je me formais grâce à eux.
C'est pas un morceau de variété que vous avez choisi de partager avec nous ce matin, mais un extrait de la sérénade numéro 10 en si bémol majeur de Mozart, interprété par l'ensemble Philidor en 2001. À la fois ému et concentré.
Oh, oui, je suis toujours complètement désarçonné par Mozart. Complètement, parce que ça commence avec rien, c'est juste une petite rythmique qui fait. Et tout d'un coup, comme ça, venant de l'horizon, il y a un thème qui rentre, avec ce hautbois qui chante, et l'accompagnement continue imperturbablement. On dirait que c'est rien. Mozart, toujours, on dirait, oh bon, c'est rien. C'est... Mais il y a une telle science, une qualité divine dans ce qu'il fait. Quelque chose que je ne peux pas expliquer, je ne peux pas m'expliquer. Quand j'étais petit, je disais, bon, Mozart, ça a l'air facile. Mais quand on écoute ça vraiment de près, sans aucun préjugé, on se dit quand même que ce garçon qui est mort si jeune, qui a composé tellement de merveilles, était certainement habité par un génie divin. Et on dit toujours d'ailleurs le divin Mozart. Mais en écoutant ça, je me rends compte combien il est moderne. Et je crois que s'il avait vécu au-delà de ses 36 ans, il aurait fini par écrire comme Stravinsky.
Qu'est-ce qui fait, à votre avis, Gabriel Yaret, qu'une musique reste, comme celle-ci, par exemple, qu'elle traverse les siècles, qu'elle survit à l'oubli?
Probablement qu'elle a été, pensée, elle a été créée vraiment avec une conscience infinie que le compositeur a mis dedans tout ce qu'il sait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il aime aussi, parce que il a commencé par imiter pour devenir lui-même. Et il est devenu lui-même, il est tout entier dans son œuvre. Et non seulement il est tout entier dans son œuvre, mais il n'a jamais accepté qu'il y ait un seul défaut, il ne veut pas de médiocrité, il veut vraiment tendre, c'est une tension vers la perfection. C'est ça qui fait que ça reste.
Ça vous arrivez de l'atteindre, vous ?
Jamais, mais je tends, c'est mon travail de tous les jours, de tendre vers ça. Mais pendant quelques temps, je commençais toujours ma journée en écoutant une cantate de Bach, d'abord, et puis après en la lisant, déchiffrée au piano, et j'ai compris pourquoi je faisais ça. C'est comme si je tendais au-dessus de moi un ciel, un horizon, que toute la journée, pendant mon travail, j'essayais d'atteindre. Je commençais avec Bach, et toute ma journée tendait vers Bach.
Un monde dans lequel la musique n'existerait pas, ça ressemblerait à quoi ?
Je crois que ce n'est pas possible. C'est impossible. Bon, même si la musique que nous faisons n'existait pas, il y a tellement de musique dans l'univers, tellement dans la nature, qu'on pourrait toujours écouter quelque chose. Mais je pense que notre approche, nous, de la musique, c'est-à-dire nous, occidentaux, ou orientaux, ou indiens, ou peu importe, a d'une certaine manière reconstruit les choses de la nature, leur a donné une humanité nécessaire à l'humain. Et c'est en ça que la musique composée, que la musique créée, est vital. Moi, je dis toujours que la musique est ma respiration. S'il n'y avait pas la musique, je mourrais.
Mais dans quelle mesure vous a-t-elle appris à être humain, justement ?
Ah, c'est une ombre tutélaire sur vous. Mais quand vous fréquentez la musique, vous ne pouvez pas ne pas être humain. Tous les compositeurs, les plus grands, étaient humainement des gens passionnants, intéressants. Peut-être Wagner, à l'exception peut-être parfois de Wagner, qui était vraiment rempli d'un ego monstrueux. Mais je crois que moi, elle m'a apporté le monde, elle m'a apporté l'univers, elle m'a appris à me connaître moi-même aussi, mes faiblesses. Parce que souvent, on compose et on se croit bon et puis on recommence à faire la même chose. Et on vit sur ses habitudes. Donc se renouveler, ce renouvellement-là, c'est la musique qui me l'a appris. Me renouveler dans ma vie, dans mes habitudes, je ne parle pas que de musique simplement. Toujours regarder ailleurs, explorer d'autres chemins.
Quelle leçon, Gabriel Yared, merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que vous serez mis à l'honneur en novembre prochain au Festival du cinéma et musique de film de La Baule et qu'en attendant, vous serez au Liban, et notamment le 18 juillet, en ouverture du Festival de Betedine. Merci encore d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci pour la musique, surtout, tout de suite les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Ces fous qui se mettent à nu, qui sont à bout, qui n'en peuvent plus de voir les fous partout. On y prend goût, mais je me passerai bien de lui, j'avoue. Il est saoul, il fait des bleus, il mène à bout, il pique les yeux. Il me rend flou, c'est fou.